Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du podcast
Michael Mann,
Capture Mag, épisode 26. Je suis avec mon ami Rafik Djoumi. Salut Rafik.
Salut Stéphane.
Et mon ami Julien Dupuis. Salut Julien.
Oui, moi aussi je suis là. Salut voilà, Stéphane.
Vous êtes là tous les deux. Et en fait, cette semaine, on va parler dans cette deuxième partie des films suivants de la carrière de Michael Mann.
Les meilleurs.
Voilà, donc Le Dernier Mohican, Hit, Révélation, donc The Insider, et Ali. Et on commence tout de suite avec Le Dernier Mohican.
On peut dire assez brièvement, donc, Le Dernier des Mohicans, c'est une nouvelle adaptation du roman de Fenimore Cooper, qui a déjà été fait l'objet, alors j'ai pas fait le compte, mais au moins 4 versions. Oh bah, déjà.
C'est un classique, de toute façon.
Voilà, Friedkin avait en fait vu gamin la version des années 30, qui l'avait impressionné, notamment parce qu'il n'arrivait pas à remettre ses Indiens. Il comprenait pas.
Michael Mann, tu veux dire.
Michael Mann, j'ai ouais. dit.
Friedkin.
Friedkin, effectivement.
Lapsus intéressant.
J'ai pas dit Nicolas Winding.
Ah, c'est déjà ça. Le Nord est sauf.
Et en fait, comme il lui était accoutumé bien sûr au western qui se passait sur le territoire américain, il avait du mal à comprendre qui étaient ces Indiens qui ne se comportent pas comme les Indiens de cinéma, qui sont des Indiens d'Amérique du Nord, donc en l'occurrence du Canada. Le projet en fait c'est un peu monté dans le sillage, dans l'appel d'air qu'a été le succès surprise de Danse avec les loups de Kevin Costner, et donc effectivement ça reste un projet à part dans la carrière de Michael Mann, qu'on voit comme un cinéaste particulièrement urbain et moderne, et dont on s'attendait pas à ce qu'il nous fasse un film en costume, mais ce qui va en partie
Sylvestre.
Et qui plus est Sylvestre, ce qui va en partie le motiver dans son approche, qui n'est pas forcément le point fort du film, je tiens à préciser, c'est l'idée d'une narration qui prenne régulièrement le spectateur par surprise, en fait. C'est-à-dire que de ne pas annoncer les effets. C'est une histoire assez compliquée, quand même, voilà, qui met en scène la guerre entre les Anglais et les Français, dans lesquelles les tribus indiennes ont été obligées de prendre... position, et on a en gros ces deux femmes et cet homme qui doivent être escortés à travers le territoire par deux Mohicans, donc dont
les pisteurs,
notre héros,
en fait,
voilà, les pisteurs, poursuivis par un guerrier Huron qui veut une vengeance personnelle en fait sur cette famille blanche, quoi. Donc c'est un film qui se veut très romantique en termes de vista, d'ampleur, qui est aussi, je pense, un hommage appuyé à un film de John Ford, qui est un chef-d'œuvre, mais comme pratiquement tous les John Ford, mais je trouve assez méconnu, qui s'appelle Sur la piste des Mohawks, qui était le premier film en couleur de John Ford, à un point tel où il y a carrément une scène qui est presque remakée, en fait, qui est cette idée de quelqu'un qui doit sortir d'un fort et qui est protégé par un sniper, en fait, qui le suit à distance et qui tire sur tous ceux qui s'approchent de lui. Michael Mann nous refait exactement cette séquence-là. Et justement, dans la tradition pictural que Ford avait posé sur la piste des mots, qui était dans l'inspiration de la peinture flamande, Michael Mann va garder en fait ses teintes en fait dans ses éclairages, ses décors et son utilisation des costumes. Mais le film est raconté d'une façon effectivement assez étrange, puisque en tant que spectateur, on est régulièrement pris par surprise. On commence à s'installer dans une forme de récit, on croit savoir ce qui va se passer, la scène suivante, boum, ça nous est retiré. Mais sauf qu'il le fait absolument systématiquement, et qu'au bout d'un moment, je crois que ça nous perd. Ce qui va sauver le film au niveau du grand public, c'est que ce parti pris de romantisme totalement assumé prend véritablement une forme complètement opératique dans le dernier, la dernière demi-heure de bravoure, en fait, dans laquelle les personnages se sacrifient, basiquement. C'est une série de sacrifices merveilleux, avec une musique qui a été co-composée.
Trevor Jones
et Randy Edelman. Randy Edelman, qui est à l'époque surtout apprécié pour sa capacité à trouver des mélodies simples et qui s'inscrivent vraiment tout de suite dans l'esprit du public. Trevor Jones, lui, qui vient de Dark Crystal, d'Excalibur, ce genre de film, qui est plus dans la tradition irish, celtique et autres. Et en fait, à la rencontre entre les deux, on a cette fameuse musique qui fait cette fameuse scène de cette scène finale du film, qui est une musique, on va dire, de type irish traditionnel, mais qui nous porte sur des rives extrêmement épiques, en fait.
Alors, c'est ouais. D'ailleurs un des trucs que Julien pointait du doigt tout à l'heure, et je pense que ça se rejoint vraiment à ce moment-là. Pour moi, c'est assez évident, quoi. Même si le film est très opératique, en fait, et très... il est filmé d'une façon classique, mais en même temps assez revigorante. L'amour du muet, en fait, chez Michael Mann, elle est dans cette scène, parce qu'il n'y a quasiment pas un mot, en fait, dans ce dernier quart d'heure, 20 minutes, en fait. Tout est dit, et en fait, tout se passe par les regards, tout se passe par la façon dont les personnages vont se regarder, jusque, voilà, tu parlais d'un sacrifice, moi, je me rappelle très clairement du personnage de la sœur de Madeleine Stowe qui se tourne et qui regarde le truc et qui chute dans le vide, et l'autre qui lui fait juste des gestes.
Et dont on comprend, en tant que spectateur, on comprend pourquoi elle le fait.
Exactement.
Ouais. Mais le verbe disparaît souvent chez Michael Mann dans le dernier acte. Hein. Souvent, il y a de moins en moins de dialogue, en fait, à mesure que le film arrive, et il peut être ça peut être un cinéma un peu très dialogué où ça a beaucoup d'importance en cours de route, mais vers la fin, en règle générale, ça tend à disparaître.
Tout se règle. Alors, il faut savoir un truc avec ce film là aussi, c'est que apparemment c'est un film, donc ça a été un gros succès pour Michael Mann, ça a été même le truc qu'il a plus ou moins remis en selle au cinéma. Mais par contre, en fait, c'est un film qui s'est fait un peu prendre par le studio, et apparemment il avait un montage de 3 heures aussi là-dessus qui a disparu. Finalement, le film fait 1h50 à peu près. Et moi, je trouve ça assez étonnant parce que ça fait partie de ces films. C'est d'ailleurs Manhunter, on n'en a pas tout à fait parlé, mais il y a aussi un director's cut sur Manhunter, qui pendant longtemps, en plus, était un director's cut qui était pauvrement fait, dans le sens où, en fait, il y avait une récupération de certaines rushes, etc., etc., mais qui était, comment dire, pas réétalonné, pas retravaillé, ce qui fait qu'en fait, à une époque où le DVD cartonnait, au début des années 2000, il y avait pas mal de montages qui sortaient comme ça, et notamment le Sam Raimi aussi, l'Armée des Ténèbres, qui était ressorti comme ça avec le cut complet, mais absolument pas retravaillé. Donc, en fait, il y avait une déperdition de qualité d'image suivant les scènes. Et là, c'était un peu la même chose avec Manhunter. À la différence du dernier Mohican, il n'y a pas de version de 3 heures. Mais par contre, il y a eu aussi un director's cut qui joue vachement sur des détails, en fait. C'est parce que c'est ça aussi qui est hyper, et il le précise en plus, c'est-à-dire c'est un truc qui est précisé, director's cut sur la jaquette, à tel point que c'est difficile de savoir quel montage tu vas finir par avoir quand il y a une édition qui sort. Et là, en l'occurrence, je me rappelle que, par exemple, sur le dernier des Mohicans, c'était vraiment des détails de regard, en fait. C'est-à-dire que je me rappelle très clairement du comportement de Madeleine Stowe quand elle voit justement sa sœur tomber. Et en fait, le plan change entre le director's cut et le cut qui était sorti en salle. Et en fait, tu ne peux pas le rater, en fait, quelque part, ce truc, parce que la réaction est tellement forte et tellement viscérale à la base quand tu regardes la scène, que si tu as vu un démontage, tu te rappelles que c'était pas ça, en fait, parce que le personnage se renvoie à ta propre horreur, presque. C'est ça aussi l'aspect. Et moi, c'est un des trucs que j'aimerais dire sur Michael Mann, et qui commence à devenir vraiment flagrant, je pense, avec Le Dernier Mohican, mais c'était déjà un peu le cas avec Manhunter, et ça va vraiment devenir le cas avec It et surtout Insider après. C'est un cinéaste qui fonctionne de manière extrêmement immersive. C'est-à-dire que, en fait, il plonge le spectateur vraiment, en fait, dans... c'est-à-dire, au fur et à mesure où il a avancé dans sa carrière, il a plongé vraiment le spectateur dans le psyché de ses personnages, à tel point qu'en fait, c'est quelque chose qu'on comprend complètement, et que même la nature... en fait, environnante, se retrouve, en fait. Donc, on a vraiment l'impression d'être dans le décor avec les personnages qu'on est en train de suivre, quoi. Et moi, c'est l'impression que j'ai eue dans cette scène, justement, finale du dernier des Mohicans. Je me rappelle, à l'époque, je m'étais dit, mais je suis dans cette forêt, en fait, avec tous ces personnages-là et tous les enjeux qui sont en train de les vivre. Je les vis à chacun autour de rôle, en fait. Et ça questionne le point de vue, du coup, en
exactement.
Fait, de chaque...
Voilà. Et ce point de vue, il n'est pas innocent, parce que dans le bouquin de Fenimore Cooper, que Michael Mann ne respecte pas trop en tant qu'auteur, hein, il considère pas que ce soit très bien écrit, et il disait que ça a été une vraie torture d'en tirer un script à peu près cohérent.
Tu parlais comme Roland Emmerich, ce qu'il pense de Shakespeare, c'est ça que tu veux dire?
Oui, sauf qu'il a raison. Il a quand même amélioré.
Fallait qu'on fasse un point Emmerich.
Voilà. Mais la vérité, c'est que Le Dernier des Mohicans est raconté sur un, sous un regard féminin. Le point de vue du film est véritablement. Ouais. Alors qu'on pourrait penser en allant voir le film qui te met en scène le héros, l'Indien, donc que c'est un film d'homme. Mais en fait, non, c'est le regard de cette femme sur cette histoire.
Mais d'ailleurs, elle représente aussi des enjeux, en fait, même dans la façon dont c'est décrit dans le film, hein, par rapport à des personnages masculins, justement. Donc, et c'est toute la scène finale aussi, c'est la même logique. C'est en fait ce personnage d'Indien qui veut absolument la récupérer, ce genre de choses, quoi. Ah, non, mais...
Donc voilà, et tout à l'heure Julien a parlé du fait que de par sa femme, il était aussi pas mal en contact avec, on va dire, l'avant-scène, le monde un peu plus intello, etc. Et il faut noter donc la présence de Patrice Chéreau dans Le Dernier des Mohicans, dans le rôle d'un général français, qui vient tout simplement du fait que Michael Mann devait le connaître parce qu'il devait fréquenter effectivement ce genre de théâtre.
Très bien vu, qui est acteur aussi. Hein.
Il est acteur aussi, ouais. Mais enfin, il était à l'époque surtout connu en tant que directeur de théâtre. Quoi.
Et réalisateur de cinéma. On est bon là, en fait, on a fini sur Le Dernier des Mohicans.
À part dire que c'est un film de gonzesse, qu'est-ce qu'il y avait de là-dessus.
non, mais parce que c'est important, c'est, voilà, il y a ce truc qu'on précisait que voilà, c'est peut-être le dernier film en fait qui a vraiment en fait c'est peut-être le premier film en tout cas qui a vraiment fait revenir Michael Mann sur le devant de la scène.
C'est un film qui a marché déjà.
Voilà. Non mais au cinéma.
Et c'est quand même son premier film qui marche vraiment. Donc c'est pas non plus.
Puis qu'il a identifié, je pense, auprès du grand public, c'est-à-dire un peu plus.
Comme un directeur d'acteur. Voilà, il a quand même Daniel Day-Lewis.
Voilà, qui c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est le film qui va lui permettre aussi de décrocher des vraies stars en fait pour chacun de ses projets quoi. Donc le projet suivant c'est Hit. Donc le film suivant, après Le Dernier Mohican, c'est Hit. Hit, c'est un film qui porte depuis...
On peut passer rapide, peut-être. Là.
Ouais, c'est pas très important. Dire, voilà.
Qu'est-ce qu'on a à dire sur ce truc
C'est... Bon, alors, non, blague à part, probablement le film le plus important de la carrière de Michael Mann, hein, et je pense celui qui restera, quoi. En tout cas, aux yeux du public.
Définitivement associé à son nom, oui.
Oui, voilà. Et pour cause, hein, c'est l'aboutissement de son style, on va dire, mais de tout ce qu'il a mis en place, quoi. Et c'est un film
c'est le film d'une vie en fait hein,
voilà puisque c'est un film qui porte en fait depuis 15-20 ans dont il a déjà écrit plusieurs versions et qui sont basées sur un vrai
après Le Solitaire en fait déjà il avait une version mais il estimait qu'elle était
il l'avait écrite avant Le Solitaire
commencé mais il avait déjà une version du scénario qui pouvait être estimée finie après Le Solitaire mais lui estimait que c'était pas encore assez bien
c'est un film qu'il voulait je pense faire dans les années 80 aussi mais qui ne s'est pas fait puisque justement il en a fait une espèce de version un peu bâtarde pour la télé qui s'appelle L.A. Takedown. C'est un des films qu'il a fait entre justement Manhunter et Le Dernier des Mohicans. Il l'a fait en 89. Et il y a déjà ce qu'on connaît de Hit, c'est-à-dire le jeu du chat et la souris entre le flic et le braqueur de banque, la scène de fusillade après le braquage, qui est un des morceaux d'action les plus impressionnants de ces 30 dernières années au cinéma. Il y a tout ça. Mais en version vraiment brouillonne, télévisuelle, en toute honnêteté, avec déjà en fait cette volonté de filmer Los Angeles, mais ça reste assez j'ai pas envie de dire aura des pâquerettes. Moi, c'est un film que j'ai. L.A. Takedown, c'est un film que j'ai découvert après, qui est ressorti d'ailleurs en fait en Europe après justement en VHS ou ce genre de choses en DVD après le carton de Hit.
C'est difficile à voir.
Donc c'est très difficile à voir après Hit. Je pense que si on la découvre avant Hit, on se dit c'est intéressant, pourquoi pas, etc. Mais c'est vraiment un brouillon. Et on va rester là dans cette logique.
Comme un document de travail en fait, L.A. Takedown.
C'est ça. Et c'est un film par contre d'une heure et demie. C'est-à-dire que c'est vraiment un tout petit film d'une heure et demie, alors que Hit, ce qui est très intéressant avec le projet, c'est que, et ça c'est, on parle de ça bien avant en fait l'âge d'or actuel de la télévision. Et peut-être que c'est l'un des points sur lesquels en fait son travail à la télévision se rejoint aussi en fait au cinéma, c'est qu'il y a cette volonté en fait de développer beaucoup de personnages autour de ces deux figures que sont les personnages de Al Pacino et de Robert De Niro. Donc les personnages de Al Pacino et Robert De Niro, c'est Al Pacino d'un côté, c'est un policier, De Niro c'est le braqueur de banque, c'est les deux faces de la même pièce. Et ils sont inspirés en fait d'un vrai policier en fait et d'un vrai braqueur de banque. Alors il se trouve que le personnage de De Niro s'appelle Nick McCauley, comme le braqueur de banque a existé dans les années 60. Et par contre, le personnage de Al Pacino qui s'appelle, je crois, Vincent Hanna, en fait, est inspiré d'un flic qui s'appelle Chuck Adamson, qui est celui qui a poursuivi en fait Neil McCauley. Donc il y a cette comment dire ce jeu du chat et la souris en fait qui est vraiment la ligne directrice du film. Et à côté de ça, en fait, il y a tous les personnages secondaires en fait qui vont se greffer sur cette histoire-là et lui donner un corps absolument monstrueux à mon sens quoi. Et comme j'ai envie de dire presque, en tout cas dans la logique du polar de cette époque-là, en fait, n'existait pas du tout quoi, au cinéma. C'est-à-dire que vraiment,
ça donne un côté opératique, quoi. C'est-à-dire que t'as, du coup, tu te retrouves avec une espèce de film, j'allais dire,
et intimiste. C'est ça qui est assez.
C'est ça qui est dingue, en fait, c'est que t'as à la fois, j'allais dire, un film choral, et c'est pas juste parce que un film choral, moi, enfin, tel que j'entends, en tout cas, le film choral, c'est que t'as une égalité en fait dans les voix, ce qui est pas le cas dans Hit, évidemment. Et il y a ces deux figures tutélaires en haut là, ces deux personnalités obsessionnelles qui vont se retrouver finalement dans leur passion, dans leur caractère jusqu'au boutiste.
C'est les meilleurs dans leur dans ce qu'ils font.
Et mais c'est il y a une faculté chez Mann, mais qu'on moi je trouve qu'on pressentait quand même un petit peu avant de faire exister hyper rapidement de façon incroyablement efficace les personnages secondaires. Ils arrivent, ils ont un vécu tout de suite, qui t'a imposé de façon incroyable et comme évidente, en fait.
Mais dans des films comme, par exemple, des films comme Le Solitaire ou des films comme Manhunter, c'est des personnages qui ont une trame. Là, dans ces films-là, ils n'ont pas forcément une trame. Et en fait, ils sont liés à ce que le personnage principal peut vivre, en fait. C'est-à-dire, je pense, par exemple, au personnage de la femme de Al Pacino. Elle existe à travers sa fille, elle existe à travers le fait que son mariage bat de l'aile. Voilà. Mais elle donne du corps au personnage.
À travers son appartement.
À travers son appartement. Non, mais bien sûr. Alors ça, c'est aussi un des trucs de Michael Mann qui est assez. On n'en a peut-être pas assez parlé. On en a parlé vaguement sur quelques trucs, quoi. Mais il y a une logique. Et là, je trouve que ça se dessine absolument admirablement bien, en fait. Il a un œil, en fait, pour l'architecture. Qui est absolument incroyable et qu'on retrouvera même dans des films suivants, mais là dans Hit ça prend des proportions énormes parce qu'en fait il filme Los Angeles
souvent imité jamais égalé, voilà. Ça pour le coup hein, c'est vrai.
Voilà. Et en fait il filme Los Angeles avec des et en fait il a je pense que c'était des landmarks entre guillemets avant qu'on voilà, mais en fait pas pour le monde entier, pour Los Angeles. Maintenant que t'as vu Hit, ces landmarks là ils existent, tu dis ok, c'est la baraque de Hit, c'est le truc de Hit, etc. tu vois,
bah, lui-même dans son caractère obsessionnel il a passé des nuits, voilà. Des nuits et des nuits à faire des repérages
sur le film,
ultra, voilà. Ultra poussé en fait pour Hit,
ouais. Ouais.
C'est la nana qui s'est occupée des repérages du dernier des Mohicans, en fait, qui a passé des mois à faire la ville dans tous les sens, d'ailleurs pour essentiellement beaucoup de décors qui ne seront pas utilisés au final. Non, ce qui est intéressant dans la structure de Hit aussi, c'est qu'il est nouveau à l'époque, que le cinéma s'autorise ça, c'est son caractère épique, en fait, plus que choral. C'est-à-dire, en gros, c'est du David Lean version polar, quoi. Enfin, c'est-à-dire, on est à un niveau, Laurence d'Arabie, Docteur Jivago, dans ce que ça raconte, sauf qu'au lieu que ce soit une page d'histoire, c'est une page d'histoire du monde des gangsters de la côte ouest américaine, avec donc tous les personnages que ça implique et la façon avec laquelle ils sont introduits dans le récit. Finalement, si tu revois des films comme Laurence d'Arabie, les personnages secondaires de type Anthony Quinn, Omar Sharif, etc., ils te sont présentés aussi en une seule scène, comme ça, généralement une introduction hyper forte. Qui te les fait exister même quand ils sont pas présents à l'écran et qui permettent aux personnages principaux d'exister d'autant plus parce que ça les inscrit dans un monde tangible en fait et dans lequel il y a une histoire.
Il y a évidemment ce travail là, mais il y a aussi tout le travail que Michael Mann fait en amont et qu'on voit pas forcément dans le film. C'est-à-dire qu'il faut aussi savoir que le côté hyper travailleur de Michael Mann fait qu'il écrit la biographie, ce qui est un truc relativement courant en tout cas chez les grands cinéastes, de tous les personnages. Mais ouais. Il paraît que lui, c'est à un degré absolument ahurissant, c'est-à-dire qu'il y a des vraies bibles en fait pour chaque personnage que lui-même a écrit auparavant et qui sont extrêmement poussées, extrêmement fouillées, quoi.
Del Toro fait ça.
Et là, sur un film comme ça, en tout cas, ce qui est absolument payant, c'est que du coup, en fait, ça décuple l'émotion, à mon sens, du film. Ouais, c'est-à-dire que tu te retrouves pas uniquement avec une scène de fusillade qui est incroyable parce que en soi, et là, on va en parler de la façon dont elle a été faite, elle est incroyable. C'est parce qu'en fait, c'est ses répercussions aussi qui sont totalement incroyables dans le film. C'est-à-dire que
tu comprends pourquoi il faut choper là.
Une heure, parce que c'est pareil, ça, c'est structurellement parlant, c'était assez rare à l'époque, c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, y compris dans des films, on va dire, d'action hollywoodien basique et tout. Mais le climax du film, ce qui apparaissait comme le climax du film, en fait, en général, à cette époque-là, dans le cinéma, c'était la fin. Et là, en fait, c'est vraiment une scène de milieu. Parce que voilà, peut-être que.
C'est le climax de l'action.
Oui, mais
en fait, il se garde le climax émotionnel pour la fin.
Bien sûr, évidemment. Mais ce que j'entends par là, c'est que La façon dont le film a été présenté au public, c'est un grand face-à-face. C'est-à-dire le face-à-face entre Al Pacino et Robert De Niro, les deux plus grands acteurs de leur génération, blablabla, bla bla, etc., etc.
C'est ce que tout le monde attendait.
C'est ce que tout le monde attendait, c'est la façon dont le film a été vendu. Et ça a été très décevant pour pas mal de gens. Moi, je me rappelle en tout cas la sortie du film, parce que les gens disaient, mais ils n'ont pas de scène ensemble. Et d'ailleurs, il y a une scène, en fait, qui est une scène de dialogue qui dure 7 minutes, où ils sont en diner, qui est absolument génial, ouais. Où il n'y a pas un seul plan d'ensemble. Il existe ce plan, il a été tourné, puisqu'il avait vraiment placé trois caméras, un champ contre champ et un plan d'ensemble. Et en fait, il s'est dit, ça fait carte postale. Les gens vont utiliser ce plan, en fait, pour
la promo et tout ça. Ouais, ouais.
Et j'en veux pas. Donc, il ne l'a jamais utilisé. Et en fait, c'est à tout à son honneur. Et surtout, c'est là où tu te rends compte qu'il est très très fort, c'est qu'il a confiance en fait dans l'énergie qu'il a de la séquence. C'est-à-dire que les deux personnages là, les deux acteurs, sont vraiment face à face. Eux-mêmes savent qu'ils ont en face d'eux leur propre miroir. Donc tout concorde en fait avec la thématique du film. Et en fait, voilà, ils se sont lancés quoi.
Ils sont, oui, et puis surtout, c'est leurs deux histoires parallèles qui se croisent à ce moment-là, en face à face.
Ce qui fait que...
Cette scène de dialogue...
Parce que le film démarre et se termine sur leur cohabitation, en fait.
Bien sûr.
Sur les deux lignes de métro qui vont chacune dans une direction différente.
Elle est d'une intensité, cette scène aussi, parce qu'il y a de tels sous-entendus. T'as l'impression qu'il y a 30 sous-entendus à chaque ligne de dialogue. C'est ça qui est hallucinant, quoi. Tout est chargé, quoi.
Et elle préfigure ce qui va se passer, justement, dans la scène d'action. C'est-à-dire que, en fait, quand toute cette mise en place, en fait, de l'aspect intimiste du film, toutes les... par exemple, c'est un personnage qui apparaît, qui disparaît du film, en fait, mais en fait, il a une vie, il n'existe pas tout seul, il existe aussi parce qu'il a une femme. Sa femme le pose là, elle lui dit, bon, maintenant, t'arrêtes les conneries.
Val Kilmer,
tu veux dire ? Non, je parle de Dennis Haysbert. Ah. Et le fait, t'arrêtes tes conneries, tu vas te réinsérer, tu vas devenir cuistot. Les mecs se rendent compte, ils vont dans le même diner, ils se rendent compte qu'ils le connaissent parce que c'était un ancien, un ancien braqueur aussi. Ils lui disent, tu viens avec nous, tu réfléchis, c'est in and out. Et le mec lui dit, ok, j'y vais, parce qu'il est en train de se faire traiter comme de la merde par son patron, le restaurateur, quoi. Ils partent, le type est dans la bagnole, il se fait tuer. La fin de son parcours, c'est quand elle le découvre à la télé et qu'en fait elle est déçue par le truc. Et s'il y a tout un placement en fait comme ça de scènes ultra intimistes qui sont ultra payantes et qui moi en fait aujourd'hui j'avoue en fait me manque vraiment au cinéma parce qu'en fait je me rends compte que le cinéma on peut raconter de manière consommée mais par contre de manière très très émotionnelle ce que finalement la télé fait mais prend son temps à faire et parfois même très bien
sur des saisons entières
voilà mais elle le fait même très bien c'est pas forcément mal fait mais ce que je veux dire c'est qu'en fait
après des films comme Hit on n'a pas beaucoup
non mais ce que j'entends par là c'est que c'est un exemple aussi pour moi un film comme Hit c'est que finalement en fait quand on raconte une histoire comme ça et qu'on t'explique qu'on n'a pas le temps dans certains films de développer des personnages et que en fait ce film là il fait 3 heures et il y arrive parfaitement et on n'a pas besoin il y a pas du gras il y a rien en trop quoi. Pourquoi pas, en fait. Donc voilà, il y a ce truc en fait, qui concorde et qui rend, pour moi, à mon sens, déjà, la scène d'action en soi hyper intense. Et Et en fait, il y a aussi la façon dont cette scène a été pensée et conceptualisée. C'est-à-dire qu'en gros, cette scène de braquage, c'est l'un des points les plus étonnants et les plus marquants quand tu vois la scène la première fois au cinéma, c'est que les coups de feu... C'est con, hein, ça a l'air con comme ça, parce que c'est évident, mais ils sont plus forts que les dialogues, en fait. Ce qui fait que d'un seul coup, en fait, t'es totalement plongé dans l'immersion du truc. Et ça a été un cauchemar à tourner, en fait, dans Downtown Los Angeles, parce que c'est tourné in situ, sur place. Et en fait, en gros, il y a eu beaucoup, beaucoup d'essais avec le preneur de son, beaucoup, beaucoup d'essais avec les armuriers, en fait, pour gérer la réverbération, en fait, des coups de feu et ce genre de choses. Parce qu'apparemment, ils ont tourné, mais ils ont shooté des centaines et des centaines de balles, quoi.
Je me rappelle que le son était incroyablement marquant au cinéma, quoi.
Cette scène, ouais.
Rafik se souvient d'avoir repéré Alex Thompson et tout. Moi, je me souviens que le son et le sound design, à ce moment-là, bon, j'avais déjà cette sensibilité-là, parce que je suis suffisamment vieux pour ça. Mais par contre, c'est un de mes plus grands souvenirs d'expérience sonore au cinéma, en fait, Hit. Hein. C'est vrai que c'est un truc, mais la scène de l'aéroport à la fin, c'est la même chose d'ailleurs. Hein. Une puissance, d'une violence, c'est terrassant, quoi. Ça te ravage.
On a le nom de Andy McNab, qui était l'expert en armement du du film qui les a fait s'entraîner pendant de longues semaines.
Oui, alors ça, c'est un autre truc aussi.
Au port.
C'est un des trucs aussi qui est assez évident quand tu regardes le film, et c'était assez nouveau, en tout cas dans les polars de cette époque-là.
La façon de tirer, ouais.
Voilà, cette façon presque militaire, en fait, de gérer les armes. Mais voilà, notamment le personnage de Val Kilmer et ce genre de choses, mais évidemment aussi les personnages de Niro, etc. Et de Tom Sizemore. Enfin, voilà. Et c'est pareil, en fait, il y a cette espèce d'ultra. En fait, alors, de réalisme hyperbolique, en fait, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, en fait, alors, pour moi, Hit, l'une des raisons pour lesquelles c'est peut-être le plus grand polar de ces 30 dernières années, c'est parce qu'en fait, c'est un film qui réintègre les codes du film noir, les ramène, on va dire, à une portion, actuelle, en fait, c'est-à-dire c'est vraiment un film moderne de notre époque. Et en fait, moi j'ai presque tendance à me dire, s'il regardait des films noirs quand il était peut-être gamin, qu'il avait 10-15 ans, en fait, quand il regardait ces films-là, et je pense qu'il les voyait avec cet esprit épique, en fait, dans son esprit.
Bah,
et
si, en fait, il les a eu de retranscrire. S'ils étaient modernes, en fait, à son époque, il les prenait pour la façon moderne. Mais effectivement, c'est l'idée d'avoir modernisé ces figures-là à la hauteur de la technicité de son époque, parce qu'on n'a pas beaucoup utilisé ce mot jusque-là, alors que pourtant il est évident depuis le début. C'est que Mann est un technicos, quoi. C'est quelqu'un qui se préoccupe de la sensibilité des films qu'il utilise, des caméras, des types de caméras qu'il utilise. Il a des contrats avec les sociétés Panavision, etc. Enfin, genre, il travaille, quoi. Il est dans la recherche et l'expérimentation à la fois technique et technologique, systématique.
Non, on va en reparler bientôt. Oui.
Ouais, mais le fait même qu'on remarque effectivement à l'époque qu'il y a un truc au niveau des effets sonores, c'est aussi parce qu'il a bossé avec ses techniciens pour obtenir cet effet-là. La photo de Dante Spinotti, elle est stupéfiante dans toute la scène de braquage du premier fourgon au début, etc. Et elle va d'ailleurs de toute façon imposer un standard esthétique qui sera indépassable dans ce genre-là sur des décennies à venir. Une fois de plus, je ne vais pas faire l'affront de reciter GTA, mais en gros, basiquement, sans Hit, GTA n'existe pas.
Non, mais même en fait, il y a plein de réalisateurs. Hein, je veux dire, il y a Olivier Marchal qui le cite de façon assez évidente dans 36 Quais des Orfèvres. Ça, après, c'est voilà, mais dans 36 Quais des Orfèvres et pas mal d'autres films d'ailleurs.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette énorme exigence et cette façon aussi de raconter un récit, pas forcément de la façon la plus simple, parce que c'est quand même, comme vous l'avez dit, tu l'as dit, un film hyperbolique, etc. Tu parlais tout à l'heure d'un film sans gras, et c'est paradoxal parce qu'à côté de ça, c'est un film contemplatif. Donc on pourrait être tenté de dire
qu'a un sens à chaque fois.
Exactement.
Il y a un enjeu à chaque fois dramaturgique sur les personnages dans ces trucs.
Mais retour en 1995 où la durée moyenne d'un film c'est 1h45, aller taper un film d'action, parce que c'est quand même un polar, donc
c'est comme ça que c'était vendu.
Voilà, mais de 3 heures, les gens se demandaient mais qu'est-ce qui va se passer pendant 3 heures, qu'est-ce qu'on va
mais tu sais, sans, encore une fois, parce que je pense que c'est un film qui est devenu un classique à vitesse grand V. Sans forcément mentir sur ça, quoi. Le truc, c'est qu'il y a, moi, je me rappelle très clairement de la perception du public, en fait, et qu'on revenait vers moi à chaque fois qu'on parlait de ce film et qu'on me disait, en grosso merdo, ouais, alors il y a la scène de fusillade, c'est super, mais le reste, c'est chiant, quoi.
Ça dépend du public, parce que justement. Ouais. Je pense que là où le film a eu le plus d'impact immédiatement à sa sortie, c'est chez le public le plus populaire. Vraiment dans les couches populaires. Ouais. Si Olivier Marchal le cite, c'est aussi parce que au niveau de, on va dire, de ceux qui se prennent ces films-là dans la gueule, Hit, c'est un film qui triche pas, en fait, sur ce qu'il te raconte. Tu sais que si t'as un oncle qui a fait de la tôle, tu sais que les mecs se comportent comme ça. Tu vois. Et ce qu'on est en train de mettre en scène, c'est d'une certaine façon quelque chose qui existe dans ton monde et dans ta vie. Et donc, pour le public qui est le plus affecté par ce film-là, c'est aussi les gens qui sont affectés par ce que traversent ces personnages, de ceux qui ne peuvent briller en société et utiliser leur talent que dans la pure malhonnêteté. Quoi.
Et tu parlais en fait d'un des points intéressants, en fait, sur le, tu parlais dans la façon dont la narration pouvait être être détournée dans Le Dernier des Mohicans, et en fait te proposer des trucs inattendus. Là, c'est pas tout à fait dans cette logique-là, mais ce qui est vraiment là où c'est un vrai roller coaster émotionnel, c'est que on te présente par exemple un personnage comme Al Pacino, qui est un chasseur, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui presque, de toute évidence,
toujours en mouvement.
Voilà, de toute évidence, c'est un personnage en fait qui est un prédateur, quoi, qui a une logique de prédateur, en fait, qui va vraiment attraper sa proie, et en fait, une fois, deux fois comme ça, en fait, il y a à un moment donné des atours où tu te dis, bah, un mec comme ça, il va pas aller dans cette direction, et c'est ce qu'il fait, où il, ça dévoile son humanité. Moi, je me rappelle que les petits moments comme ça d'intimisme, en fait, qui m'ont vraiment marqué dans le film, c'est cette scène où t'as un serial killer dans le film, en fait, qui tue une jeune prostituée.
Le mal incarné.
Voilà. Et en fait, et Al Pacino se retrouve en fait sur la scène de crime, et quand il voit la mère arriver. En fait, il a compris que c'est la mère et en fait, il l'attrape et il la bloque littéralement, c'est-à-dire il la bloque dans ses bras et il l'empêche en fait d'aller vers le truc. Et cette scène, elle est déchirante, c'est-à-dire c'est vraiment une scène complètement et
c'est une scène avec Nathalie Portman, hein, aussi.
Les scènes de Nathalie Portman qui fait sa tentative de suicide. Le truc en fait, c'est que c'est des films. En fait, quand je dis c'est sans gras, ce que j'entends par là, c'est que oui, c'est-à-dire en fait, c'est une scène qui aurait pu être coupée. Mais qu'est-ce qu'on aurait perdu en fait? C'est-à-dire que c'est ça qui est assez. Et du coup,
qui ne surligne pas non plus ce que tu n'as pas besoin qu'on te surligne. Je veux dire, à aucun moment tu vois le personnage de Pacino prendre un rail de coke et en même temps tu sais que c'est un cocaïnomane.
La scène existe. La scène existe, elle n'a pas été.
Mais elle n'est pas dans le film, tu n'en as pas besoin.
Parce que ça, c'est un questionnement que les gens se sont posés. C'est une fameuse scène en fait où il se retrouve en face de Hank Azaria et il lui dit She's got a great ass comme ça. Puis en fait, il se met à hurler. Et tu te dis, bon, là, c'est Pacino qui en fait un petit peu des caisses comme ça peut lui arriver, tu vois, notamment 2-3 ans avant, dans le temps d'un week-end.
Tu comprends à quoi il carbure, ce mec, au quotidien.
Voilà, c'est ça.
Il y a ça, puis moi, je me suis aussi toujours dit que sur cette scène-là, le fait qu'il soit drôle, en fait, à ce moment-là, te met dans une connivence vis-à-vis du personnage qui est hyper intéressante. Et surtout, c'est intéressant à ce moment-là, en fait. C'est-à-dire que tu peux lâcher la pression aussi à ce moment-là.
Et la mise en scène a commencé à te perdre avant que la scène ne démarre, parce qu'il arrive dans cette espèce de dépotoir, on sait pas, c'est un truc de Romanichel, ce machin, quoi.
Non, c'est après, c'est dans un truc d'entreprise, j'allais dire, de fabrication, je sais plus quoi, des trucs.
Où t'as la caméra qui, au lieu de le suivre tranquillement, restant derrière lui, en fait, tourne autour de lui et donc te perd dans ce labyrinthe de...
Il y a aussi un autre truc dont on parlait tout à l'heure, parce qu'on parlait du cinéma muet, de la façon qu'il a de passer au-delà des mots, hein, encore une fois, Michael Mann, et même si le dialogue peut être hyper important, et on en a la preuve dans ce film-là, de façon brillante, avec cette scène de rencontre entre les personnages de Niro et de Pacino. Moi, il y a une scène qui me terrasse totalement aussi dans Hit, parce qu'elle fait passer énormément de sentiments ultra complexes du personnage uniquement à travers l'image et même pas à travers le découpage. C'est la scène de dilemme en fait de Niro dans la voiture quand avec le personnage de Amy Branham ils vont vers l'aéroport et où on sait que là il a la croisée des routes en fait, la croisée des chemins en fait ce personnage. Il sait que il peut aller là, mais il va à sa perte. Mais en même temps, il aura accompli la mission qu'il ressent au profond de lui, en fait. Il va se griller. Ou alors, il peut avoir une vie tranquille, la vie dont il a rêvé avec cette femme qu'il aime, quoi. Et c'est une scène, en fait, où n'importe qui te l'aurait fait, enfin n'importe qui, en tout cas, n'importe quel, disons, réalisateur lambda, te l'aurait fait avec une scène de dialogue ou tout simplement un découpage où le mec se serait peut-être regardé dans le miroir ou dans le rétro ou un truc comme ça. Et Mann, il fait pas ça, en fait. Il fait juste le mec, il est en train de conduire. Mais il y a un jeu de lumière et sur l'architecture en fait de l'autoroute.
Il passe
en fait,
à travers le tunnel.
Il passe à travers le tunnel qui te fait, mais alors, tout comprendre. Et c'est allé incroyable, cette scène, pour moi, c'est un
modèle. De toute façon, il y a énormément de choses comme ça, où, par exemple, c'est comme la destinée du personnage d'Eddie Trero. C'est-à-dire qu'en fait, on comprend que le personnage l'ait trahi. En mode full spoiler, je pense que si vous écoutez ça, vous avez vu Hit, quoi. Au moins Hit. Et en fait, ce personnage-là, il y a quand même une humanité dans la façon dont il va quand même le traiter finalement, de Niro, et c'est ça qui est hyper touchant, c'est que
il n'y a que le tueur pour lequel il a aucune
sympathie
et il y a un autre point alors qui est intéressant, je trouve, avec ce film, mais qui va pour moi vraiment exploser avec Insider. Enfin, c'est là où en fait pour moi personnellement, Hit, c'est mon préféré de Michael Mann, mais je pense que son meilleur film, c'est vraiment Insider. Et en fait, c'est déjà en fait des petits moments comme ça en fait où il va briser sa forme en fait. C'est-à-dire que en fait, il va vraiment rentrer dans un espèce de truc immersif où sa caméra, elle va vraiment épouser les personnages et en fait l'action. Il y a ça un petit peu dans la scène de fusillade. Clairement, en fait, il y a des moments où la caméra va vraiment se poser derrière en fait, être dans la ligne de mire du personnage et vraiment filmer la nuque, filmer le bras, l'extension, etc. Et de manière dont t'as pas vu ça en fait finalement ces cadres-là.
Déjà un travail sur le décadrage aussi, enfin, sur, en tout cas sur des trucs de bord-cadre qui sont inattendu, en fait.
Voilà, dans la scène de fusillade. Dans la scène de fusillade. Et t'as ça aussi, justement, dans la scène où il va chercher le tueur. C'est-à-dire quand il est à la croisée des routes et qu'il va le voir dans l'hôtel et que d'un seul coup, en fait, quand il rentre et qu'il défonce le, comment dire, la porte et qu'il commence à te défoncer la gueule, t'as une espèce de caméra embarquée sur le personnage de comme une espèce de vue, pas FPS tout à fait, mais en fait comme un espèce de, comment t'appelais ça là, les caméras que tu mets sur ta tête là,
GoPro, hein.
Comme du GoPro mais avant l'heure, en fait, c'est-à-dire, mais pas tout à fait, parce que c'est vraiment pas cadré là, mais en fait voilà, il y a quelques coups comme ça sensitifs qui sont un peu étonnants quand tu regardes le film, si tu te dis, jure un petit peu par rapport à comment dire, au reste du film qui quand même a une facture hyper impressionnante, quoi. Mais qu'il va vraiment, à mon sens, en fait, développer dans le reste de son cinéma. En fait.
Voilà, sublimer, en fait. Ça va exploser dans Insider. Ouais.
Voilà. Alors, Hit, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur le film.
Non, à part renvoyer les gens à l'ouverture de The Dark Knight, qui était voilà,
la version ratée.
La version compressée.
Il y a eu tellement de citations de Hit, après.
C'est la plus évidente, je pense.
Ouais, enfin, il y a eu tellement. Je veux dire,
c'est la grosse distinction, je trouve, entre un cinéaste comme Nolan, qui est quelqu'un qui est beaucoup dans le concept, et dans l'idée générale. Et sans être dans le découpage justement de la séquence, et vraiment créer une mise en scène entre guillemets du
suspense. Parce que l'idée, elle est bien, moi, je trouve, la scène d'ouverture de Dark Knight. J'aime beaucoup
cette idée. Mais je trouve que ça n'est pas complètement abouti, en fait, dans la mise en scène. C'est un vrai problème.
Il va jusqu'à reprendre William Fichtner.
Complètement, ouais, qui est un des personnages dans Hit. Alors que Michael Mann, c'est quelqu'un qui investit totalement, en fait, ces concepts-là, ces idées-là, en fait, et qui les pousse jusqu'au bout. Et là, je pense que vraiment.
Qui est vide de l'intérieur, je pense. Vraiment, quoi. Il n'y a pas de filtre, quoi.
Moi, je pense vraiment que, en fait, s'il y a un film, en fait, sur lequel Michael Mann est devenu vraiment Michael Mann, c'est Hit. Ne serait-ce que parce que voilà, tout le monde l'a pompé derrière, ne serait-ce que parce que, le film aussi a été un succès, un vrai succès, quand c'est sorti en salle, et que je pense qu'il a créé une borne, en fait, dans le polar. En fait, c'est tout simplement peut-être le dernier polar, voilà quoi. Alors après le succès de Hit, The Insider, révélation.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ce qui pourrait s'apparenter quand même à un gros film à dossier, puisque c'est un peu voilà, c'est
un movie of the week.
Voilà, un gros sujet, mais que en fait Michael Mann va complètement transcender, quoi. Alors gros film à Oscar aussi, en fait, dans la logique en fait hollywoodienne. Encore une fois, rien à voir avec ce qui se fait généralement dans les films à Oscar, quoi.
Exactement. Toi, tu nous disais que à ton avis, que Hit était ton film préféré, mais que tu considérais Insider comme son plus grand film. Moi, c'est l'inverse, en fait.
Ah bon ?
Ouais. C'est-à-dire que je considère que Hit, c'est probablement le chef-d'œuvre de Michael Mann, mais mon préféré, clairement mon préféré, c'est The Insider. Peut-être parce que
ça se joue entre les deux, ça va. Ouais.
Bah, oui,
moi, c'est pareil. Moi, j'aime les deux. C'est plus grand film, les deux, et c'est mon film préféré, les deux. Je suis entre vous deux.
Non, mais donc, c'est intéressant de voir qu'effectivement, une fois qu'il a été complètement adoubé par à peu près tout le monde, hein, que ce soit à la fois le public et la critique pour Hit, il se soit lancé dans un projet qui, au fond, était aussi risqué quelque part, parce que, comme tu l'as bien spécifié, film à dossier, film, voilà, movie of the week, etc. C'est donc le projet est tiré d'un article, en fait, qui avait été écrit autour de ce whistleblower, de ce lanceur d'alerte, qui avait révélé tout ce qu'il ne fallait pas dire à l'époque des pratiques de l'industrie du tabac, et qui, parce qu'il était tenu par un contrat qui le vouait au silence, s'est retrouvé dans une batterie de problèmes, alors que ce qu'il était en train d'annoncer au monde était un problème de sécurité nationale, en fait, hein, puisque en résumé, The Insider, c'est l'histoire de quelqu'un qui est en train d'expliquer que l'industrie du tabac tue les gens en sachant qu'elle les tue. Et donc voilà, comment
peut-être préciser juste un petit truc qui, rapidement. C'est aussi, le truc, c'est que c'est un truc qui se fait beaucoup à Hollywood, hein, ça. C'est-à-dire vraiment acheter des articles de journaux pour en tirer des. Alors que le fait divers existe en soi, mais voilà. Et là, c'est en l'occurrence, c'est Marie Brenner qui a aussi, en fait, on a acheté son article pour faire le dernier Eastwood, le cas Richard Jewell. Donc ouais. C'est une journée spécialisée dans les cas un peu.
Tout à fait. Et puis aussi pour de rappeler aussi la tradition vraiment américaine de grand attachement au légalisme, en fait. C'est quand même le pays qui produit le plus de films de procès, etc. Parce qu'il y a une vraie une vraie raison nationale d'être attaché à la Constitution et aux valeurs de la loi, en fait, au-delà des considérations politiciennes, idéologiques, que nous, Européens, on aime bien jongler avec ça. Aux États-Unis, vraiment, le terme de la loi est quelque chose qui les fascine. Et qui est très important dans leur constitution en tant que peuple. Donc du coup, le film tourne évidemment beaucoup autour de ces questions légalistes. Donc chose très intéressante parce que c'est aussi l'occasion pour Michael Mann de mettre en scène un univers qu'il connaît bien, mais qui nous est pratiquement interdit de voir, qui est celui des coulisses de la télévision et de la politique qui préside aux coulisses de la télévision, puisqu'en gros, donc l'histoire, c'est qu'il y a ce fameux lanceur d'alerte. Et ce producteur de l'émission 60 Minutes, qui est la grosse émission, l'espèce d'envoyé spécial américain, visant à convaincre ce personnage de lui révéler tout ce qu'il sait en lui promettant protection. Ce qui ne va pas forcément se passer comme prévu, et ce lanceur d'alerte va se sentir trahi, en fait, par celui qui était censé le protéger.
Qui lui-même est trahi
par sa propre chaîne de télévision.
Voilà.
Donc on a des scènes de négociation dans The Insider, notamment avec la productrice jouée par Gina Gershon, etc., qui sont d'un réalisme totalement vraiment inédit. Hein. J'ai jamais vu de film américain ou même européen qui nous montre concrètement ce qui se passe, en fait, dans les décisions médiatiques qui ont des conséquences politiques nationales et à quel point on est effectivement presque dans un univers aussi empoisonné que celui de Washington, quoi. Donc ça, on est loin du glamour, quelque part. Et venant de quelqu'un qui a bossé à la télé, je pense que c'est un document précieux. Mais donc, encore une fois, ce que ce film met surtout en scène, c'est ce personnage central, puisque donc, fidèle à son travail en profondeur. Alors déjà, je voulais préciser, Michael Mann s'est adjoint les services d'un scénariste qui était Eric Roth sur ce film-là, dont il avait particulièrement apprécié un script qui circulait à l'époque, mais qui ne trouvait pas preneur. Qui était The Good Shepherd, qui va beaucoup plus tard être adapté par Robert De Niro sous le titre français de Raison d'État, qui était qui racontait en gros les 25 premières années de la CIA, de la constitution de la CIA. Et il avait été impressionné par déjà la masse de travail que Roth avait réussi à structurer sous forme de récit. Donc il avait cette idée quand même que pour un film dossier, il fallait avoir quelqu'un qui sache trouver les angles dramatiques, en fait, pour pouvoir te raconter quelque chose qui au fond est assez chiant parce que justement très très dans les textes de loi et tout ça et donc comment ne jamais perdre le spectateur émotionnellement. Donc nous ce qu'on suit c'est le parcours en fait de ce lanceur d'alerte qu'ils ont été amenés à rencontrer. Il a rencontré bien sûr le Bergman de 60 Minutes qui les a aidés à l'écriture du script, mais également Wigand et le contact a été super difficile et c'est là où Michael Mann s'est rendu compte que ce gars n'avait rien pour lui, en fait. Il n'était pas aimable, en fait. Il était tout le temps sur la défensive, et en plus il était encore tenu par cette fameuse clause de déclaration, je sais pas comment,
non-disclosure agreement.
Et donc, vraiment, il était sur la pure défensive. Et ça lui a donné une clé, parce qu'en fait, ce qu'il met en scène dans ce film-là, c'est effectivement un rat de laboratoire à qui on a donné une série d'électrochocs et qui a les poils qui se hérissent, en fait, quoi, qui est conditionné à être piégé. Donc, on retrouve une fois de plus le concept de quelqu'un qui est complètement prisonnier du monde et de l'institution et qui n'a plus d'autre choix, au fond, que de s'en remettre à lui-même, qui est peut-être la personne à qui il fait le moins confiance au monde.
Pour s'extirper de cette condition, en
pour
fait.
Voilà. Voilà. Et donc, c'est absolument déchirant comme... ce film aurait aussi pu s'appeler Le Solitaire. On a rarement vu personnage plus isolé que ce lanceur d'alerte.
En fait, il est d'ailleurs présenté littéralement comme ça. C'est-à-dire que dans la scène d'ouverture du personnage... et c'est hyper sensitif en fait comme truc, c'est que toi si t'as vécu on va dire t'as travaillé on va dire dans une boîte ou un truc comme ça, tu vois le truc, c'est que t'as il est littéralement dans son bureau à part pendant que les autres en fait de son sont en train de fêter un départ à la retraite ou je sais plus ce que c'est exactement en fait, et lui et l'isolement est clairement montré en fait dans le mouvement de caméra et dans la façon dont le personnage est présenté, quoi.
Tout à fait, toute la mise en scène du film participe de toute façon de cette construction psychologique, hein. Alors ce qui rend le film fascinant, c'est d'avoir réussi à créer des tensions dramatiques époustouflante sur des scènes qui, sur le papier en tout cas, tu te dis juste, elles vont être d'une platitude sans nom. Je pense notamment donc à la convocation de Wigan par son patron, joué par Michael Shambon, qui en gros est en train de lui faire comprendre à demi-mot que c'est un homme mort si jamais il ouvre sa gueule. Mais à aucun moment il ne va le dire, bien sûr, ces mots-là. C'est la mise en scène qui se charge de nous le rappeler, puisque en fait il s'installe à son bureau, on démarre sur un simple champ contre champ avant de découvrir qu'il y a des personnages hors champ qui commencent à se placer hors cadre en fait. Comme une menace invisible, et on voit des mains, des pieds, des bras, voilà, qui sont en train de l'entourer, et en fait, c'est des gangsters qui sont en train de le coincer dans une ruelle, quoi. Sauf qu'on est dans un bureau luxueux où tout le monde se sourit et se parle de façon affable, mais en réalité, c'est vraiment des questions de vie ou de mort qui sont systématiquement mises en scène là-dedans. Il y a des confrontations de comédiens mémorables et je pense notamment même à des seconds rôles. Il y a une séquence un peu plus loin où il a l'autorisation de faire une déposition en dehors de l'État où il a signé le contrat, enfin tout un truc légal compliqué, et donc on lui adjoint un avocat qui est joué par Bruce McGill, qui est une espèce de grande masse imposante avec une grande voix, qui se retrouve donc face à l'avocat de l'industrie du tabac qui est joué par Wings Hauser, qui est joué spécialisé dans les rôles de serial killer des années 80. Et Wings Hauser fait comprendre en gros que si le client ouvre la gueule, il est mort, quoi. Et là, Bruce McGill se met face à lui, quoi, pour lui dire que son client parlera quoi qu'il advienne. Mmh. Et la puissance qui se dégage de cet échange entre deux comédiens secondaires, hein, dans le récit est absolument terrorisante. Moi, je me souviens d'avoir carrément passé la scène plusieurs fois parce que je comprenais pas pourquoi l'éclat de voix de Bruce McGill était à ce point flippant, quoi. C'est un ours qu'il est en train un grizzly qui filme dans cette séquence-là. Et au milieu de ça, on a donc ce personnage interprété par Russell Crowe qui était pas forcément le premier choix. Et en plus, lui, il avait un peu peur de jouer un personnage plus âgé qu'il ne l'était réellement. Il comprenait pas pourquoi on l'avait choisi lui. Alors, d'après Michael Mann, c'est parce que il a vu, en fait, comme il avait rencontré le vrai Wigan, il a vu chez Russell Crowe sur une scène, comme dans les répétitions, il a joué une scène sans dialogue, en fait. C'est-à-dire au moment où il s'aperçoit que l'interview qu'il a faite n'est pas diffusé. Ouais. Et il devait jouer cette scène-là, en fait, et juste avoir un regard, le regard de quelqu'un de déçu. Et il l'a joué d'une façon telle qu'il a cru voir le vrai personnage qu'il avait rencontré avant. Donc c'est ça qui lui a valu d'être engagé.
Et Russell Crowe, à l'époque, doit préciser juste que c'était une vraie star montante, hein, c'est-à-dire qui était pour le coup. Il avait fait.
Gladiator n'était pas si loin.
Gladiator est sorti 6 mois après. C'est ce qu'il a vraiment consacré comme une vraie grosse star. Mais avant, il a été dans Les Confidential. Et en fait, il est apparu dans quelques productions on remarque, où il a été clairement remarqué, même si les films n'ont pas marché, comme Morovis de Sam Raimi, par exemple.
Tout à fait. Mais le rôle avait au départ été considéré pour Val Kilmer, ce qui n'était pas forcément la bonne idée, mais la bonne époque pour le faire bosser sur des projets compliqués. Il aurait un peu filé entre les doigts. Donc tant mieux, finalement, si c'est tombé sur Russell Crowe. Mais donc voilà, ce qui est extraordinaire sur 60 Minutes... sur The Insider, révélation, c'est qu'on a vraiment l'exemple type de je trouve, hein, un cas d'école de ce que la mise en scène représente, en fait, au cinéma.
Complètement.
Et comment un sujet qui aurait pu être barbant, mais du début à la fin, devient une succession d'enjeux où tu étouffes, quoi. T'as l'impression que des fois que tu vas mourir tellement il y a de la tension.
Il y a un autre film, en fait, qui est un peu similaire dans cette logique-là, parce que ça aurait dû être un film chiant, en fait, comme il y en a eu, hein. Ce truc-là, c'est Lo Lorenzo de
George Miller,
parce qu'en fait, c'est deux films où tu te dis...
Qui lui est un film de guerre, pour le coup.
Voilà, pourquoi on irait voir ça, en fait? Pourquoi est-ce qu'on sait qu'il y a des films comme ça qui sont faits et qui sont généralement assez chiants, quoi? Et en fait, c'est tout l'inverse qui se produit. C'est-à-dire, tu te rends compte que le type, en fait, a aborde le réalisateur aborde le film suivant ce que lui sait faire en fait.
Exactement. Il est pas en train de nous. En fait, la vérité c'est que le film ne te dit pas je vais te raconter l'histoire de ce scandale de l'industrie du tabac parce que qui est vendu sur le papier, mais je vais te faire vivre ce que les gens ont vécu, ceux qui ont traversé cet événement l'ont vécu comme ça.
Et jusqu'à un point assez frappant. Moi, je me rappelle que tu parlais, parce que là, tu parles de scènes qui sont vraiment, encore une fois, des scènes qui sont constitutives, en fait, du film, c'est-à-dire tout ce que le film raconte, mais tu as les à côté, encore une fois, l'intimisme, en fait, du film. Et moi, je me rappelle que, dans l'idée de rendre ce personnage pas sympathique, parce que c'est pas vrai, mais en tout cas, attachant, avoir de l'empathie pour lui, il y a la façon, en fait, dont sa famille est représentée, et il y a notamment la petite fille qui est asthmatique. Et je me suis souvenu qu'en fait, je me souviens que dans cette scène, la première fois que j'ai vu cette scène, je me disais, en fait, c'est ça être asthmatique. Mmh. C'est-à-dire vraiment, il y a ce truc où je me suis dit, donc en fait, ce que tu ressens à l'intérieur quand tu es en train de perdre ton souffle, etc., etc., cette proximité, en fait, dans la façon de le filmer, vraiment de se mettre derrière presque l'oreille, en fait, du personnage pour capter, en fait, l'essence, en fait, le moment où elle est en train de plus arriver à respirer. Je me suis dit, c'est étouffant, en fait. Il y a vraiment un côté étouffant comme ça. Et c'est, encore une fois, une scène qui aurait pu être coupée. C'est-à-dire, c'est vraiment une scène qui aurait pu ne pas... Mais je pense qu'elle participe dans l'idée de rendre le personnage empathique, en fait, d'avoir de l'empathie pour le personnage, et surtout...
De le rendre humain aussi.
De le rendre humain, et surtout dans le cadre où, finalement, peut-être que c'est un personnage qui n'est pas sympathique en soi, c'est-à-dire le vrai, mais quand tu racontes ce genre de récit... cette idée de l'homme seul contre tous aussi, c'est quand même une figure attachante à la base, parce que tu vois, tu te retrouves dans un truc où c'est quelqu'un qui et ça on le sait tous en fait, on l'a tous quelque part en nous en fait, la notion qu'on peut se faire briser par le système.
Et lui c'est même pas se faire briser, c'est se faire atomiser jusqu'à la dernière molécule, quoi. Il donne l'impression de pratiquement dès le début d'être complètement écrasé par le monde entier. Ouais, et l'idée de te dire le ressort, The fate of the world, quoi. Enfin, en gros, repose sur les épaules de ce type qui est le plus faible de tous, quoi, et qui ne m'est même pas sympathique. Donc, moi, je pense que quand on regarde le film attentivement, et je pense quand on a une attention émotionnelle au film, on finit par se dire que ce type est d'un courage absolument stupéfiant, parce qu'il a, il a traversé tout ça, quoi. Il y a aussi quand même cette idée que, justement, je pense que le succès de Heat a complètement décomplexé Michael Mann sur l'expérimentation par rapport à sa mise en scène.
C'est le plus gros bond stylistique, je pense, de toute sa carrière, de toute façon, entre Heat et Insider.
Jusqu'à lui permettre de s'autoriser des choses complètement aberrantes, et je pense notamment à la fameuse séquence au restaurant japonais, donc, où ils se rencontrent tous les deux, et où en gros ils signent le deal, c'est-à-dire quand ils se serrent la main symboliquement, mais c'est aussi le moment, quelque part, de la trahison, puisque c'est là où ça va se jouer. Et au lieu de donner au spectateur l'impression que tout est en place, il va au contraire choisir de le déstabiliser complètement, puisque cette scène, donc c'est un champ contre champ dans lequel il va régulièrement briser la règle des 180 jusqu'à la rendre absolument visible. C'est-à-dire que nous, évidemment, on connaît bien, on est attentif à ce genre de petites erreurs de montage éventuelles et tout, mais là, il insiste tellement dessus qu'il donne vraiment l'impression, il veut que le spectateur le moins au courant soit au courant qu'il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène qui me met aussi mal à l'aise, alors que je suis dans un cadre tranquille, enfin, il n'y a pas plus symétrique et plus propre qu'un décor japonais, donc il ne l'a pas choisi non plus, je pense, par hasard, il voulait quelque chose de très ordonné pour justement te montrer le chaos qui est en train de se jouer dans ce contrat.
Mais de toute façon, alors cet aspect expérimental, il est dès le début du film, c'est-à-dire que vraiment, en fait, la toute première scène du film, c'est le personnage de Bergman dont on te montre que c'est un personnage qui est quand même à des couilles, quoi, tu vois, puisque si je ne dis pas de bêtises, il va interviewer le chef du Hezbollah, en fait, un truc comme ça.
Oui, la séquence d'ouverture, effectivement, elle te montre un certain visage du courage, on va dire, en te mettant dans
sa peau, quoi.
En gros, tu arrives dans le climax d'un film de guerre type d'espionnage, quoi.
C'est la scène d'ouverture.
Voilà, où le héros est emmené...
J'ai presque envie de dire, pas une caméra embarquée, parce que c'est pas exactement le terme, mais c'est le sentiment que t'as, c'est-à-dire que t'as vraiment, en fait, je sais pas quelle est la focale qu'il utilise, une espèce de focale un peu spéciale sur le visage, en fait, parce que en fait il est masqué,
il est
pour pas qu'on le
pour pas qu'il repère l'endroit
où on l'emmène, quoi. mais en fait la caméra colle littéralement à son visage, quoi. C'est-à-dire que t'as ce truc en fait hyper sensitif où tu dis ok, donc en fait avoir un truc sur la gueule c'est ça aussi, tu vois, c'est être dans cette situation de ce personnage-là, c'est ce que tu ressens, quoi. Et je trouve que ce qui est très très fort en fait dans ce film-là, quand je parlais d'immersion déjà sur Hit, mais là il le pousse je trouve encore beaucoup plus loin, c'est que en fait même quand il sort ces personnages-là de leur environnement. Parce que ça, c'est son environnement au personnage de. C'est, il a l'habitude, en fait. On va dire le personnage. On te le présente d'entrée de jeu, en fait, le personnage de Pacino. Il fonctionne comme ça. Et il a même les couilles, en fait, d'envoyer limite chier son intervenant, en fait, à ce moment-là, dans la séquence. Et à côté de ça, quand tu le vois, quand ils sont en train, justement, de gérer toute la politique du truc et qu'il est chez lui, au bord de la mer, en train de regarder le truc, et qu'en fait, d'un seul coup, ce qui est un endroit qui est complètement paradisiaque, en fait, devient presque oppressant autour de lui. Parce que, en gros, si tu veux, quoi qu'il arrive ou qu'il aille, en fait, dans le monde, il sera poursuivi par cette histoire-là, tu vois, et qu'en fait, il va devoir en découdre, il va devoir se mettre dans le truc. Ça, c'est un truc, en fait, qui est complètement, comment dire, qui est très très fort, je trouve, parce que t'es dedans, en fait, c'est ça le truc, c'est que chez Michael Mann, dans sa façon d'épouser physiquement ses personnages, t'es totalement dans leur tourment, en fait. T'es totalement, en fait, t'es embarqué en eux, en fait. C'est étrange à dire, parce que c'est un truc... c'est tellement sensitif, c'est tellement pulsionnel, en fait, sa mise en scène, que tu pourrais... Enfin, tu dois te laisser porter, et donc mettre des mots dessus, bah, tu te dis, en fait, je suis embarqué dans ce perso. Et c'est ce qui a... Enfin, pour moi, c'est là où le cinéma est le meilleur, en fait. C'est-à-dire que t'es vraiment littéralement à côté du mec que t'es en train de suivre pour poursuivre cette intrigue. Donc tu ressens absolument tout, quoi.
Et sur un sens du cadrage, encore une fois, où j'insiste, c'était totalement atypique à l'époque. C'est-à-dire que c'est un truc qui a été admis aujourd'hui, que tu peux retrouver...
Oui, mais que personne n'utilise vraiment non plus.
Mais non, en tout cas, pas à ce point-là, pas avec cette maestria, ça c'est sûr, quoi. Mais t'avais, en tout cas, à l'époque, une sensation de nouveauté totale. Moi, je me souviens d'avoir vu ce Insider et de m'être dit, mais je n'ai jamais vu un film filmé comme ça auparavant. Combien de fois ça arrive, ça, dans une vie de cinéphile, en fait, de pouvoir se dire ça? C'est hyper rare, quoi.
Bah, oui, et qui t'embarque à ce point, justement, dans le ressenti violent de ces personnages. Moi, il y a quelque chose qui m'a questionné à l'époque, qui était le fait qu'on ait donc Russell Crowe dans, comme je l'ai dit, dans le rôle de ce personnage pas aimable mais complètement pris au piège et qui n'a plus d'autre choix que de chercher en lui au plus profond de lui de quoi survivre, en fait, ou d'une certaine façon, associé à la voix de Lisa Gerrard qui accompagne toute la bande originale du film, hein, et qui est vraiment là pour poser les cris internes de ce personnage qui peut pas crier, en fait, hein, qu'on va retrouver l'année suivante chez Ridley Scott, les mêmes, quoi, pour le film Gladiator, et qui raconte basiquement mais je pense que Ridley Scott, à défaut de faire des bons films déjà à cette époque là c'est quelqu'un qui pour le coup a l'intelligence du talent des autres, quoi, et sait repérer ce qui a été
alors les films se sont faits en concurrence, ouais, quand même, hein, plus ou moins, c'est à dire qu'ils se sont faits plus ou moins à la suite, donc je suis pas sûr que Ridley Scott avait forcément vu Révélation avant de
tourner Gladiator, s'il accepte d'y répondre, ouais. Mais en tout cas, c'est la violence et la puissance émotionnelle qui se dégage de The Insider reste quelque chose encore même d'inédit, parce que j'ai pas vu depuis de films sur des sujets similaires qui arrivent encore une fois à cette rencontre. Enfin, je vous renvoie donc à la scène avec son patron, là, Michael Chambon.
C'est un film, quoi, qui te lessive, hein. Ouais. Stéphane ne compare à Lorenzo, mais c'est vrai que c'est moi, tu
sors de là, t'es épuisé,
épuisé, quoi, mais vraiment. Vraiment, quoi, physiquement.
Donc voilà, pour The Insider.
Bizarrement, film qui est moins...
Qui n'a pas très bien marché.
Bah, alors, ça n'a pas bien marché. Ils ont perdu un peu d'argent, même, je crois, sur le film. Mais
c'est un film qui a coûté cher. Parce qu'il faut aussi préciser ça. C'est-à-dire qu'en fait, à cette époque-là, à l'époque où le cinéma ne produisait pas absolument 1 milliard de films par an pour toutes les plateformes confondues, etc., etc., et que les stars se partaient dans tous les sens, quoi, le truc, c'est que, en fait, dès que tu avais un film de ce type-là, il fallait le cibler. Quand je dis film à Oscar, c'est parce qu'en fait, le studio l'a ciblé comme film à Oscar.
Très clairement, ouais.
Voilà, avec un budget de film à Oscar de cette époque-là, hein, c'est-à-dire quand même assez cher. Hein. C'était un film qui a coûté pas loin de 70-80 millions de dollars, hein, ce qui est énorme, hein, pour un film comme ça. Mais je pense que c'est un budget, en fait, qui... on paye là-dedans, en fait, on va dire, la finition absolue du projet, c'est-à-dire le côté open bar sur la mise en scène et tout ça, etc., etc., expérimental, quoi. J'ai envie de dire, si on doit comparer à ce qui se fait aujourd'hui, Des films comme le Tarantino, justement Once Upon a Time in Hollywood, et des ou par exemple Ford versus Ferrari, c'est des films qui mettent clairement l'argent dans la fabrication et dans la mise en scène aussi, quoi. Et c'est là où le budget passe, c'est pas dans les gros trucs, voilà. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que c'est un film qui est oublié presque, en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est un film qui a été nommé à 7 Oscars, des trucs majeurs. Hein. Il est reparti complètement bredouille.
C'est un tournant de toute façon dans l'histoire hollywoodienne, puisque il a été produit par une génération, c'est une production du studio Disney, il a été produit par une génération qui avait grandi avec les films des années 70, les Robert Redford, etc. Et il le voyait quelque part comme les hommes du président des années 90. Le film a beaucoup plu au public adulte qui l'a vu. Mais d'après le président, enfin, il a dit, on est très fiers de ce film-là, mais les adultes qui l'ont vu et qui considèrent que c'était le meilleur film de l'année n'ont pas réussi à convaincre leurs amis d'y aller, au sens où ils ne peuvent plus faire le marketing pour nous. Les modes de distribution à l'époque ayant drastiquement changé et les films fonctionnant plus sur le buzz préalable à la sortie et l'événement et tout, tu ne pouvais plus avoir des succès comme tu en avais dans les années 70. Et ça, je pense que ça a conditionné aussi Hollywood dans son changement de politique.
Je pense qu'il y a un autre truc aussi qui a. Enfin, moi, je me souviens de la sortie du film et qui a joué aussi contre Insider, c'est que tout le monde te disait, mais c'est un film qui t'explique que la cigarette, c'est méchant. Mmh. Et t'avais l'air, non, c'est pas ça, en fait. C'est plus grand que ça. C'est beaucoup plus grand que ça, en fait, Insider. Oui, il y a ça en fond. J'ai presque envie de dire, c'est le prétexte. Mmh.
Peut-être,
quasiment
peut-être qu'il a
du
été
truc.
Mal marketé.
Et
mais...
ça a été. Je me souviens que ça, dans les discussions, c'était très compliqué en fait de faire comprendre que justement. Tu allais sublimer tout ça, mais je pense que, alors moi j'ai pas vécu la sortie de Lorenzo de la même façon, mais je pense que c'était un peu
les mêmes problématiques, presque pire, hein, parce que Lorenzo c'était vraiment un film qui disparut littéralement du jour au lendemain.
Oui, et puis l'affiche pour le coup te vendait vraiment le film mielleux du samedi soir.
Voilà. Et l'autre point peut-être aussi très intéressant avec des Insiders, c'est que pour moi c'est peut-être, j'ai pas d'exemple d'autres films comme ça, ou en tout cas pas de cette qualité. Qui te montre le fonctionnement, en fait, la toute puissance des lobbies, des trucs comme ça, en fait, qui est tout un système qu'on connaît pas du tout, nous, en France, en tout cas pas de façon aussi marquée et aussi,
Des lobbies en France, il n'y en a pas.
Non, mais bien sûr, mais ce que j'entends par là, c'est qu'en
la
fait, c'est
des,
pas,
des institutions,
c'est pas quelque chose qui est, ouais. qui peut tirer à ce point à la corde,
non,
en fait,
c'est sûr.
Des
de manière aussi évidente.
Soit, parce que t'as effectivement le lobby de la cigarette, mais encore une fois, la télévision, vraiment, ouais, les scènes qui se passent à l'intérieur de la télé sont incroyables.
Et ce qui est presque, je pense, va à l'encontre de ce que le film essaye de dire, c'est que c'est tellement normalisé justement par rapport à la France, aux États-Unis, c'est tellement évident et c'est tellement pas un problème quelque part en fait dans certains fonctionnements, en fait, c'est au sein même de leur politique que les mecs se disent, enfin, t'as l'impression que les mecs se disent, c'est quoi le problème en fait ? Tu vois, c'est presque ça en fait.
C'est les gangsters et alors ?
Non mais voilà, c'est presque ça qui fait disparaître, je pense, aussi le film dans l'opinion publique. Je pense que c'est un de ces trucs où en fait, même si c'est pointé du doigt, même si c'est. Et c'est fait de manière, moi je trouve finalement assez subtile hein, dans le film quoi. Que du coup, je pense que c'est ça qui fait qu'en gros, c'est un film qui pour moi, enfin ouais, quand je dis que c'est son meilleur, c'est que c'est celui où il a atteint un niveau pour moi de tout ce qu'il est capable de faire de manière stratosphérique. C'est pas forcément aussi emblématique que Hit ou même Collateral, qui sera un film qui reprend ses grandes figures stylistiques quoi. Mais c'est un film en fait un vrai film de réalisateur, c'est-à-dire je prends un sujet, je me l'accapare complètement et je le transcende.
Quoi. Et pour reprendre les propos de Julien précédemment, c'est un film pour le coup véritablement expressionniste, c'est-à-dire qui dans sa mise en scène vise à exprimer les sentiments et les émotions profondes des personnages qui le traversent.
Mais disons que la situation de Michael Mann au sortir de The Insider, elle est ambivalente, c'est-à-dire que il a encore le succès, je pense qu'il surfe encore sur le succès de
Hit. Il est Michael Mann en
et
tout cas.
Il reste voilà Michael Mann, il est vraiment sur, encore une fois là, il est très clairement identifié, c'est un des grands en fait en activité, mais ça reste un peu fragile et un tout petit peu précaire, et il va se retrouver sur un sujet dont il n'est pas à l'initiative, mais qui va se s'approprier en fait totalement, qui est donc Ali. Faire un film autour de Mohamed Ali, ça coule un peu de source. Enfin, je veux dire, le cinéma américain a toujours. Déjà, les films de boxe, c'est un genre ultra populaire depuis un paquet d'années. Et ensuite, Mohamed Ali, une figure tellement importante aux États-Unis que ça semble évident qu'il faille à un moment ou à un autre en tirer un film. Et du coup, un film sur la vie de Mohamed Ali, alors qu'il est encore vivant, évidemment, à cette époque-là, ça court pendant plusieurs années. Il y a énormément de réalisateurs qui s'intéressent au projet. Oliver Stone y travaille pendant pas mal de temps, à une époque avec Denzel Washington qui devait interpréter Mohamed Ali. Et en fait, c'est Will Smith qui va très vite s'emparer en fait du film en décidant lui-même qu'il va interpréter Mohamed Ali et qui tente à un moment en fait d'imposer Barry Sonnenfeld, mais ça va pas se faire parce qu'il y a Wild Wild West qui sort, c'est un four, du coup on fait plus trop confiance à Barry Sonnenfeld.
C'est vrai, même un choix étonnant, hein.
Ouais,
à part le fait qu'il ait confiance en lui.
Oui, en plus tu te dis mais qu'est-ce qu'il aurait fait là. Enfin, c'est vrai que c'est
parce qu'il avait fait Wild Wild West avec lui, non?
C'était
bien sûr, surtout il a surtout fait Men in Black.
Non mais bien sûr, mais malgré tout le style n'est pas, tu dis pas qu'il ait des prédispositions pour ce type de film. Et en fait c'est Will Smith qui va finalement imposer Michael Mann. Michael Mann qui n'est pas forcément ultra pour au début. Il a surtout des problèmes en fait avec le scénario qu'on lui propose. Mais en fait, il y a plusieurs choses qui vont l'intéresser. C'est déjà le fait qu'il va pouvoir travailler totalement avec Mohamed Ali. Que Mohamed Ali en plus accepte qu'on parle autant de ses défauts que de ses qualités, c'est-à-dire que Mohamed Ali a totalement confiance que pour mettre en valeur ses immenses qualités qui en font peut-être le boxeur, enfin moi j'y connais rien en boxe, mais c'est
une légende, oui.
C'est une légende, enfin c'est un génie de la boxe, c'est évident,
enfin exagéré
au niveau stratégique quoi, en tout cas. Il faut aussi parler de tous ses travers. Et puis le truc en fait, c'est que Michael Mann comprend très vite à travers le scénario qu'il peut se le réapproprier à partir du moment où il va casser une des règles tacite du biopic, qui est que tu dois basiquement retracer à peu près la totalité de la vie de la personne que tu vas traiter, donc de sa très jeune enfance, voire peut-être de sa naissance parfois, jusqu'à sa vieillesse, jusqu'à disons sa retraite dans le cas de Mohamed Ali, puisqu'il était encore vivant donc au moment du tournage. Donc on voit très bien qu'à travers ces deux choix, il va aller vers quelque chose vers lequel il tend en fait depuis le début, qui est cette recherche de s'immerger totalement à l'intérieur de Mohamed Ali, déjà en focalisant l'énergie de son film sur 10 ans clés de l'existence du personnage, et puis d'autre part en impliquant de façon très approfondie le véritable Mohamed Ali dans le projet. Les 10 ans clés qu'il va choisir sont les 10 ans les plus turbulente probablement qu'ait connu le boxeur, qui est il devient champion du monde, mais il prend des positions politiques, religieuses qui sont très mal vues dans l'Amérique de l'époque, mais qui sont nourries par tout son passé, notamment d'enfant, et tout ça va l'amener au pinacle de sa gloire, qui est même un moment quasiment où la figure de Mohamed Ali, j'ai envie de dire, touche à la mythologie pure, où il va retourner en Afrique pour faire un match totalement légendaire, enfin un truc...
Qui est aussi un énorme épique. Coup de marketing.
Aussi, bien sûr, mais...
Mais qui est mis en scène aussi, comme
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qui est aussi... disons que c'est là où concorde totalement chez Mohamed Ali, à la fois son point de vue sur la société américaine, sur la société en général, sur la place des Noirs dans le monde à l'époque où il vit, et tout ça en se servant, en fait, de son pur génie de boxeur. Et c'est là, en fait, où on comprend aussi que être à l'intérieur de Mohamed Ali pour vivre ça, pour vivre ces enjeux et ce moment de convergence... quasiment magique en fait, qui va vivre à la fin, et extrêmement important. Et moi je trouve que c'est un des trucs qui est le plus intéressant en fait de Ali, c'est-à-dire que dans tous les films qu'on a vus précédemment, quasiment tous les films, évidemment pas Le Solitaire et peut-être un peu moins aussi Manhunter, mais en tout cas c'est un film profondément subjectif, Ali, et où il n'y a pas du tout ce système de binôme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de deux personnages en fait qui vont se renvoyer la balle, comme c'était évidemment le cas dans Heat, comme c'était aussi quand même le cas dans Insider, quoi.
Oui, mais qui ce n'est pas c'était pas le cas forcément automatiquement.
Ou de regarder de l'extérieur, comme souvent le biopic le fait.
En fait,
basiquement, un biopic, c'est, tu as quelque part, même si elle n'est pas explicite, tu as toujours la voix du narrateur qui est quelque part. Là où elle y est
tu
pas.
Lis un résumé d'un dictionnaire, ou enfin une page Wikipédia. Quoi.
L'ouverture du film te plonge, en fait, elle est parfaite, hein, mais ce plan d'ouverture où tu le vois en train de courir, enfin tu le vois,
toute la séquence qui est très longue, en fait.
Tu le sens en train de courir, voilà, c'est-à-dire que tu es littéralement en train de courir et en train d'épuiser ton corps, etc. Et t'es arrêté.
Mais aussi de vider ta tête. Ouais, ouais. Elle est géniale. En fait, c'est une longue séquence musicale autour d'un morceau de Sam Cooke qui interprète. Mmh. Et en même temps, en parallèle, Michael Mann, c'est brillantissime, quoi, cette ouverture qui est très longue en plus. Hein. Je crois que c'est 10-15 minutes, enfin. Et en parallèle, tu vois effectivement Mohamed Ali qui est en train de courir, de faire son footing en pleine nuit. Tu vois Sam Cooke qui donne un concert live. Donc, tu comprends tout de suite comment ça fonctionne, en fait, la communauté noire américaine à cette époque-là, de façon sensitive, encore une fois, parce que tu as le public qui réagit de façon... qui surréagit même à la chanson. Et tu comprends aussi... Et t'as des flashs, toujours avec ce sens de l'ellipse incroyable, de la jeunesse et de ce qui a vécu, de ce qui a marqué Mohamed Ali, comme quand tu fais du sport. Et puis, souvent, le sport te permet aussi d'évacuer tous ces trucs-là. T'as des souvenirs, et puis t'as ton esprit qui se met à vagabonder et à naviguer dans les trucs. Et tout à coup, déjà, dès le début, t'es plongé dans une époque... et t'es plongé dans la tête de Mohamed Ali. Et c'est tout l'enjeu du film, ça va être de déployer en fait ça pour la suite du métrage.
T'es plongé dans l'intimité de ce personnage que vient brutalement rompre en fait cette voiture de flic, en fait, qui vient t'arrêter et qui te remet dans le contexte, pour le coup, de l'époque, parce qu'au fond, ce que t'as oublié durant toutes ces minutes d'évasion, c'est que tu es un black à cagoule en pleine nuit, quoi. Non, mais c'est fabuleux.
Alors tu l'oublies, oui et non, parce que c'est aussi la naissance de la colère en fait de Mohamed Ali, c'est-à-dire que tu le vois par rapport à Jésus, comment il se positionne.
C'est la façon avec laquelle on parce que encore une fois
il se confronte à ça.
Ce film, il va être vu par un public blanc aussi, tu vois. Ouais. Donc et ce qu'ils sont en train de vivre, c'est cette idée où t'es noir, mais t'as oublié que t'étais noir. Et tout d'un coup, l'époque, la société te le rappelle avec violence, quoi. Parce que encore une fois, l'entrée des flics dans le champ, il se passe rien de mal, hein, dans la scène. Il l'emmerde pas, il l'insulte pas, il le traite pas de sale nègre, etc. Enfin, tout se passe entre guillemets bien, mais tu repars avec ce sentiment, il fait comme
cette boule au ventre, en fait.
Cette boule au ventre. Ouais,
voilà. Ce qui explique aussi le parcours du personnage, finalement. Mmh. En fait, c'est le fonctionnement et les raisons pour lesquelles il va partir dans une autre direction. Il va changer de nom, enfin, il va retrouver son nom, etc., etc. C'est un truc. Mais après, il y a ce truc et c'est marrant parce que tu parlais de la logique du narrateur dans un film comme ça, dans un biopic, tu vois, qui est quand même un genre en fait très spécifique, effectivement, et qui est assez. Dont les Américains sont assez friands, en fait,
trop
ils en font
codé.
Pas mal, quoi. Voilà. Michael Mann, dans son fonctionnement, et parce que le film n'a pas été un bide, mais il a été.
Il n'est pas rentré dans ses frais.
Voilà, ça a coûté très cher, ça a coûté plus de 100 millions, ils avaient une grosse star qui était Will Smith. En fait, c'est un film qui, encore une fois, a été remonté. Il y a un Director's Cut qui existe, qui est sorti 2-3 ans après en DVD, parce que ça a été pour le coup un vrai carton en DVD à l'époque. Et dans la fameuse scène justement où il retourne en Afrique et justement où il refait cette espèce de course en fait et qui est un grand moment en fait hyper enivrant quoi, hyper sensitif. Dans son Director's Cut, il a rajouté une voix off en fait et tu te dis mais c'est hyper redondant, c'est très bizarre en fait qu'il mette la voix de Will Smith dans le rôle de Mohamed Ali à ce moment-là en fait et ça coupe littéralement l'immersion en fait, l'impression d'être Mohamed Ali à ce moment-là dans la scène quoi et c'est étrange en fait comment il peut avoir cette façon de
parce qu'il est en recherche
de se remettre en question en permanence en fait sur ces films-là. Alors un film comme Insider, il l'a absolument pas retouché. Un film comme Hit, il l'a un tout petit peu retouché avec quelques petits vraiment des tout petits détails en fait, des trucs où tu sens que le perfectionniste derrière ça le rend dingue et du coup il y a quelques petits trucs voilà. Et d'ailleurs Hit quand il a été remasterisé en 4K, là, c'est pareil, il y a une espèce de... Quand tu revois le film, il reprend une vibrance, en fait, que tu n'avais pas forcément dans toutes les éditions vidéo depuis, quoi. Et presque pas en salle, quoi. C'est-à-dire que, vraiment, il y a ce truc. Donc, il a cette approche, en fait, où il essaye vraiment de se remettre en question. Et encore aussi sur ce film-là, quoi. C'est ça qui était assez étonnant, de reprendre les règles du biopic, entre guillemets. Parce que ça, c'est peut-être un truc dont qui pourrait être intéressant, justement, de préciser, parce qu'il va le faire un petit peu dans les films suivants aussi. C'est que il n'est pas vraiment là où on l'attend, y compris sur des sujets Et en tout cas des genres, puisque justement il n'aime pas cette notion de genre, sur lesquels en fait finalement il pourrait se baser sur, comment dire, sur les canevas classiques en fait pour prendre ses risques. Oui, il prend des risques en cassant même ces canevas-là.
Le truc c'est que Ali il arrive comme sur les écrans, comme là pour le coup signé Michael Mann, il a déjà une identité auteur quand même assez identifiée. Le film est vendu sur le réalisme de ces scènes de combat.
Qui sont véritables. Will Smith il s'est entraîné un an, c'est pas rien pour une star comme ça, il s'est pris des vrais coups dans la gueule et ça se voit en fait, hein, quand tu vois le film, il y a beaucoup de vrais combattants.
Cette espèce de logique de caméra embarquée, c'est-à-dire à l'intérieur du ring, avec les coups portés, comme finalement en fait peu de films de boxe le film, parce que l'ont filmé, c'est-à-dire que si tu prends les gros films de boxe, on va dire, t'as évidemment alors t'as l'aspect hyper opératique de Scorsese sur Raging Bull,
qui est le titre qui est cité à l'époque de la sortie de Ali, non pas par Michael Mann ou la production, mais par la critique avant que le film ne sorte, c'est-à-dire que les gens l'attendent au tournant justement pour faire le comparatif Raging Bull Ali.
Alors que lui il s'inscrit complètement au faux par rapport à Raging Bull, justement, hein.
Voilà. Complètement. Et à côté de ça, éventuellement, bon, des films comme Rocky où là pour le coup en fait on est plus dans le rapport humain en fait, si tu veux, mais qui va être poussé au fur et à mesure, c'est-à-dire que bon après voilà, quand plus par exemple Rocky devient un film d'action, plus ça va être filmé comme ça, mais et puis de manière très stylisée quoi, mais sûr et quasi réaliste, hein. La plupart des boxeurs te disent que c'est pas du tout réaliste en fait ce qui se passe dans Rocky quoi, mais parce que c'est dramatique, c'est écrit de manière dramatique en fait, et là dans Ali c'est encore une fois, on est dans la scène de fusillade de Hitch, je trouve, on est dans un truc comme ça où on est dans le bam, tu vois.
Et ce qui est très intéressant en fait chez Michael Mann, parce que justement on n'en a pas parlé de ça dans la scène de fusillade, c'est que oui évidemment il y a un côté ultra viscéral en fait dans la scène de combat de Ali, c'est indéniable, mais il y a un côté définitivement cérébral aussi, c'est-à-dire que moi qui n'y connais rien en boxe, quand je vois Ali, j'ai l'impression que je connais la boxe, c'est-à-dire que je comprends pourquoi le mec, c'est un stratège hallucinant. Et on t'explique jamais ça. Mais tu le vois et tu le sens et tu le comprends, hein, de façon quasi intuitive. Tu comprends pourquoi le mec, en fait, c'est pas tant que c'est le plus puissant. C'est pas tant que c'est le plus musculeux, que c'est le mec qui va te filer l'uppercut, vraiment, qui va te rétamer. Mais juste, c'est un stratège de génie. Il sait où se placer. Il sait quand énerver, en fait, son adversaire. Il sait quand jouer avec lui. Il sait quand baisser sa garde pour prendre des coups et fatiguer le mec qu'il a en face. Et il sait quand, à son tour, pouvoir frapper pour pouvoir vaincre. Et ça, c'est un truc aussi, moi, que je trouve incroyable, en fait, dans Ali, que je n'ai vu dans aucun autre film de boxe. C'est-à-dire te dire que tout à coup, la boxe fait grave travailler ta tête, quoi, en fait. C'est pas que les muscles, en fait. Et finalement, c'est quelque chose que tu retrouves pas si souvent que ça, en fait, du tout, dans ce type de jeu et de film. Et tu parlais aussi de la caméra embarquée. Il faut quand même le noter. C'est Emmanuel Lubezki en fait qui fait la photo, hein, qui est donc le photographe qui va se faire connaître beaucoup avec Alfonso Cuarón des années plus tard. Et dans Ali, il va y avoir.
Mais il avait déjà si je dis pas de bêtises, c'était lui sur Sleepy Hollow, c'est ça, non ?
Oui, c'est ça.
C'est ça qui avait déjà quand même posé.
Et puis en fait, on sait, tout le monde
dans
savait
un style différent, mais.
Oui, mais tout le monde savait qu'en plus sur Sleepy Hollow, il avait vraiment endossé une grosse partie de l'esthétique du film. Enfin voilà quoi.
Pas seulement ça, non seulement ça, mais en plus ça se sent dans certaines scènes qui sont pas du tout des scènes à la Burton, pour le coup, qui sont des scènes d'action. Avec des caméras au ras du sol et des trucs comme ça qui sont pas du tout habituel dans ce
En fait, il y a un truc qui est intéressant à noter chez Michael Mann et aussi chez Emmanuel Lubezki. Alors moi, je les ai jamais vus en parler spécifiquement sur Ali, mais Michael Mann, il se trouve que pendant très longtemps, parmi ses nombreux projets avortés, il y avait un biopic sur Capa, en fait. Le photographe. Emmanuel Lubezki est un gros fan aussi de Capa, et Capa disait toujours si ça n'a pas l'air vrai, c'est que t'es pas assez prêt, ou si la photo est pas assez bonne, je sais plus, je déforme un peu ses propos, je suis désolé, mais vous la retrouvez facilement sur le net. Et en fait, il y a de ça en fait chez les deux hommes, qu'on retrouvera d'ailleurs dans Les Fils de l'Homme aussi, hein, des années plus tard, où il faut que tu sois là où ça se passe, en fait. Il faut que ta caméra, elle est là où ça se passe. Sinon, ton spectateur, il n'aura pas l'impression d'être là. Alors, évidemment, il y a quand même des longues focales, notamment dans les scènes de boxe et tout. Mais il y a quand même cette volonté de proximité qui va les pousser à une expérimentation qui est totalement inédite à l'époque, qui est en fait d'utiliser deux caméras numériques accolées côte à côte, donc d'obtenir deux images qui vont être fusionnées en fait numériquement pour avoir une résolution satisfaisante pour être projetée sur grand écran. Bon, ça reste tout à fait visible à l'époque, on a eu le balbutiement du truc, mais en même temps il y a déjà dans le choc, il y a une façon aussi dont Michael Mann commence déjà à introduire un peu l'imagerie numérique,
notamment dans la scène d'ouverture.
Tout à fait, parce que en fait Alice, c'est la première fois qu'il commence à toucher et à découvrir cet outil-là, mais ça, j'en parlais plus longuement dans Collateral qui va suivre. Donc il y a cette volonté en fait d'introduire le truc, mais aussi de l'utiliser comme une trope visuelle qui permet de choquer, de réveiller le public un petit peu comme la rupture en fait d'axe dont parlait Rafik tout à l'heure, c'est-à-dire que tout à coup tu sors de ta zone de confort, t'es pas dans une mise en scène fluide mais le réalisateur t'interpelle et fait appel en fait à nouveau à tous tes sens pour que tu sois hyper sollicité de façon viscérale en fait dans ce qui est en train de se produire là. En fait, et je retrouve aussi ça dans son sens de l'ellipse.
Il avait repéré Lubezki des années auparavant, puisqu'il avait bossé sur un film qui s'appelait The Harvest de David Marconi, et Friedkin développait un projet avec Marconi. Donc il avait vu The Harvest. Comme The Harvest, d'après Lubezki, rendait hommage à certains plans du solitaire, il se dit que c'est par cette entremise que Michael Mann l'a repéré, mais du coup il avait reçu les scripts de Heat et de The Insider en fait. Jusqu'à ce que Michael Mann considère que Dante Spinetti était plus adapté sur ces gros films là, mais à partir de Ali, il s'est dit ok, c'est le bon moment, ça va être le bon projet pour qu'on puisse bosser ensemble, et ils étaient tous les deux effectivement d'accord pour cette idée de caméra au corps en fait, et justement dans la tradition Kappa comme tu l'as
de toute façon la photo de Ali elle est géniale hein. Enfin, ouais.
Et il voulait tourner au départ compliqué. Il avait considéré que le film devait être tourné en scope anamorphique, et en fait très vite quand il a fait des tests pendant que Will Smith s'entraînait, il faisait des tests avec une caméra anamorphique, et s'est aperçu qu'il y avait un gros problème parce que avec les déplacements sur le ring en fait le personnage était tout d'un coup très près très loin trop vite et donc il a opté pour du Super 35 pour avoir une autre profondeur de champ en fait pour pouvoir justement qu'on se sente toujours près de lui quelle que soit la gestuelle violente qu'il puisse faire quoi.
Moi je vous invite notamment à regarder l'utilisation de la couleur rouge dans Ali, où il y a c'est un truc vraiment hyper intéressant, et de voir comment le rouge arrive justement quand on arrive en Afrique notamment et sur la terre africaine, mais comment c'est déjà préparé en fait en amont dans le film quoi.
Mais c'est des techniques qu'on retrouvera bien plus tard sur The Revenant. Hein, ce qu'on voit sur Ali, en fait, on le retrouve complètement sur The Revenant.
Si ce n'est qu'en plus, là, dans The Revenant, en fait, il y a une approche aussi qui est beaucoup plus dans la logique du plan séquence, en fait.
Mais ce travail spécifique sur la profondeur de champ par rapport à une caméra entre guillemets portée et proche du personnage en fait.
Mais c'est peut-être le bon moment en fait de parler du rapport de Michael Mann en fait au numérique, et du coup j'ai glissé.
T'enchaînes sur Collateral.
J'ai glissé vers Collateral.
Ali, c'est un film qui a pas plus marché que ça. C'est un film qui est un peu oublié aussi dans la carrière de Michael Mann, dans le sens où c'est
moins
pas un film qui ressort automatiquement.
Moins
en fait,
que The Insider.
Moins que The Insider.
Oui, bien sûr.
T'as
quand même une grosse star dans un rôle, on va dire.
En fait, Ali, c'est un peu un rendez-vous manqué. C'est-à-dire que je pense que Michael Mann, il a fait le film pour toutes les raisons que j'ai déjà citées, mais je pense qu'il y avait un côté dans sa carrière où ça aurait pu être un super film en fait pour continuer à l'asseoir et lui permettre de faire les films qu'il voulait ensuite. C'est-à-dire que c'était quand même un véhicule pour une star à la base. C'était un truc qui devait donner en fait l'Oscar à Will Smith, et je trouve humblement qu'il l'aurait grave mérité.
Sur un sujet
hyper vendeur et totalement adapté en plus à la politique des Oscars. Hein. Et puis c'était aussi un film qui aurait pu apporter un très gros succès. C'est-à-dire que Mohamed Ali, c'est quand même une figure mythique et qui parle à toutes les générations encore aujourd'hui. C'est quand même le porte-étendard d'une certaine vision de l'égalité.
Et puis c'est une star tellement connue qu'on pouvait sortir un documentaire sur son nom en salle et être un succès
exactement.
Je parlais de When We Were Kings, j'entends parler quand tu sortais celui-là qui était pareil, encore un film Oscarisé, mais qui était nommé aussi.
Tu reconnais l'importance de la vedette au titre du film que tu donnes quoi. Si tu fais une biographie sur Marilyn Monroe, tu peux l'appeler Marilyn et les gens sauront, et tu peux dire Ali et les gens savent, donc ça veut dire
mais je pense que le film a encore une fois payé un peu
le prix de toutes ces expérimentations. C'est-à-dire que Ali reste quand même un produit assez finalement atypique. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a des résidus du projet de film à Oscar, je trouve, quand même, dedans. Mais c'est bien plus que ça, j'ai envie de dire, quoi. C'est beaucoup plus étonnant que ça et c'est beaucoup plus inattendu aussi que ça.
Alors, c'est ici que se termine la deuxième partie de ce podcast. La prochaine fois, on va parler du reste de la carrière en fait, de Michael Mann.
Il y en a.
Il y a d'autres films.
Il y a d'autres films encore.
Je sais que tu les as pas vus, mais en fait, il y a d'autres films. C'est-à-dire, pour les énumérer, Collateral, Miami Vice, Public Enemies et Black Hat, alias Hacker chez nous. Merci messieurs d'être passés.
Merci Steph. Hein, merci Steph.
Et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Donc,
merci Alain.
Merci Alain à la technique.
Merci à la technique et merci Thomas à la technique, c'est ma capot. Et merci à vous de nous écouter. Vous pouvez nous retrouver, je vais le répéter, j'ai l'impression de le répéter à chaque fois, ad vitam.
Que je le dise.
Vas-y, dis-le.
Vous pouvez nous retrouver sur tous vos réseaux sociaux préférés.
Mais il faut faire des blagues.
Instagram, Twitter, Facebook,
Mouclé.
YouPorn.
Non, YouPorn.
YouPorn,
tu tapes YouPorn, MySpace. À mon avis, tu vas être déçu.
Sur MySpace aussi.
MySpace, pas
sur les newsgroups, on est partout.
Copains d'avant. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à aller voir ce qu'on fait aussi sur YouTube, donc nos émissions stéroïdes et puis les petits podcasts stéroïdes aussi. Voilà. Et on se retrouve.
N'oubliez pas de remercier Alain.
Voilà. Et j'oublierai pas de remercier Alain la prochaine fois. Merci à tous.